Regard. Rencontre avec un photographe. Portrait d'un artiste à travers son objectif. Présenté par Ulrich Hugeveld.
Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Deux Regards, émission de radio dans laquelle nous partons à la rencontre de photographes. Cette semaine, c'est Antoine Agoudian qui est avec nous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous.
Alors monsieur Agoudian, vous êtes né de parents arméniens à Alfortville, hein, connu pour être selon la formule un petit village gaulois à l'arménienne. Depuis plus de 30 ans, vous vous consacrez à la photographie. Votre œuvre d'abord en noir et blanc est notamment dédiée à la mémoire du peuple et à l'histoire, hein, du peuple arménien. Vous avez d'ailleurs vécu sur place quand en 1988, à la suite du tremblement de terre, vous êtes parti deux années sur place avec une ONG comme logisticien et interprète. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question du génocide arménien et en 2011, vous êtes d'ailleurs le premier photographe depuis le génocide de 1915 à avoir exposé dans une importante galerie à Istanbul sur ce thème, hein, de la mémoire arménienne. Depuis 2015, on en reparlera, vous avez introduit la couleur dans votre travail. Vous avez aussi travaillé sur des thématiques sociales et sur la guerre, que ce soit en Irak, en Syrie ou de retour en Arménie au Karabakh. En 2021, vous avez reçu le visa d'or humanitaire du CICR, la Croix-Rouge, pour votre travail sur la dernière guerre au Karabakh, hein, une guerre évidemment dont nous allons reparler avec vous, notamment dans la partie commentaires de travail. Alors monsieur Agoudian, je le disais, l'Arménie et la mémoire sont au cœur de votre travail. C'est une évidence pour vous ce prisme arménien, un pays finalement que vous avez découvert sur le tard parce que vous avez grandi en France, hein.
Exactement, moi je suis issu de la troisième génération en fait des Arméniens nés en France. Mes grands-parents étaient rescapés du génocide arménien et la singularité de ma génération, c'est qu'on était en contact avec les derniers rescapés du génocide. On était en banlieue parisienne. Si vous regardez les photos de cette époque, vous verrez que toute la ceinture parisienne était vraiment extraite en fait de l'activité parisienne et c'était comme un petit village gaulois, comme vous l'avez si bien dit. Moi, j'ai baigné dans cette ambiance dépourvue d'images, il n'y en avait pas beaucoup à mon époque, mais c'était surtout des récits et mon imaginaire s'est synthétisé sur ces récits et la rencontre avec la photographie, ce médium qui a dans son ADN le réel, m'a permis d'évoquer cette mémoire transmise oralement.
Alors, vous l'avez découvert quand, l'Arménie, véritablement, en dehors de ce récit qu'avaient pu vous léguer vos parents et votre famille?
Singulièrement, à l'époque du tremblement de terre, puisque je suis parti comme logisticien et interprète, avec une ONG. Sous place, on travaillait avec Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde. Et en fait, je suis parti pour même pas une semaine, 10 jours. Et l'idée, c'était uniquement de réguler toute l'aide humanitaire vers les régions sinistrées. Et en fait, je suis resté sur une année à travailler comme logisticien avec un projet particulier, c'était celui de travailler sur les enfants orphelins et handicapés du génocide.
Alors, monsieur Agoudian, vous êtes photographe de la mémoire, vous documentez la question du génocide, vous êtes également devenu, je crois qu'on peut le dire, un photographe de guerre. En 2017, vous étiez à Mossoul, vous avez été également très présent en Syrie, et puis récemment au Karabakh, hein, la dernière guerre qui a évidemment mis aux prises arméniens et azerbaïdjanais, comme vous nous le disiez. Comment est-ce qu'on devient photographe de guerre finalement? Un petit peu sur le tard, hein.
Oui, complètement. En fait, moi, comme je suis une thématique, j'ai un héritage oral et je me sers du médium photographique pour mettre des images sur cette histoire de grands-parents et de tous les grands-parents arméniens qui m'ont raconté cette histoire. Et je me sers de l'image pour raconter une histoire, en fait. Et les thèmes que il y a aussi le chaos de la guerre. Et en fait, c'est une thématique que j'ai toujours essayé d'aborder, mais le problème, c'est que le chaos ne peut s'affronter que dans son antre. Et il faut savoir que que ce soit l'Irak ou la Syrie appartenaient à l'Empire ottoman. Et tous les événements qui s'y sont produits, notamment en Syrie et en Irak, appartenaient au sanctuaire la disparition du peuple arménien, parce qu'en 1915, il y avait des camps qui étaient tout autour de l'Euphrate, il y avait des camps à Raqqa, il y avait des camps à Dezour, et il y a beaucoup de réfugiés arméniens qui sont arrivés à Mossoul, en Irak. Donc, si vous voulez, comme moi, je mets des images sur une histoire, en fait, c'est l'espace géographique qui détermine mes missions. Et dans cet espace géographique, il y a la Turquie, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Arménie, il y a le Haut-Karabakh, il y a y compris Jérusalem, le Liban, etc. Donc, en fait, j'ai identifié un espace géographique appartenant à l'ex-Empire ottoman oriental. Et en fait, c'est cet espace géographique qui détermine les endroits où je vais me rendre. Et dans cette pratique, il y a effectivement, y compris le chaos issu de la guerre. Donc, quand il y a eu la guerre à Mossoul, naturellement, je m'y suis rendu pour illustrer une des parties de mathématiques, à savoir la guerre, le chaos. Et après l'Irak, il y a eu effectivement la Syrie, et puis il y a eu aussi le Cap. Donc, j'ai suivi presque à mon insu, en écoutant mes sirènes, et je me suis rendu, quoi.
Alors, monsieur Agoudian, on va justement parler du Haut-Karabakh, hein, cette guerre que vous avez documentée. Donc, qui est une guerre, on le rappelle, hein, qui a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Karabakh. Guerre qui a eu lieu entre septembre et novembre 2020. Il y avait déjà eu une guerre très, très violente au début des années 90 entre ces deux pays pour le contrôle de cette région. Alors, la première photo que vous nous avez proposée de commenter pour détailler ce conflit. C'est une dame hein, d'un certain âge qui habite dans le soubassement d'une église hein, qui a été mise à disposition des réfugiés pour survivre dans ces conditions sous les bombardements de la coalition turco-azerbaïdjanaise. Racontez-nous un petit peu le contexte de cette photo et puis l'état d'esprit, j'imagine, de cette personne âgée qui subit le feu.
En fait, moi, comme je vous l'ai dit, je suis né à Alfortville, il y avait énormément de rescapés du génocide, moi, quand j'étais petit, ici. Et ils avaient ce particulier, c'est qu'ils avaient déjà un accent, ils avaient des expressions, ils avaient un physique, et il y avait cette tragédie qui planait toujours. Ils n'en parlaient pas beaucoup, ils en parlaient même très peu. En revanche, des fois, ils en parlaient. Et moi, quand j'ai vu cette dame dans le soubassement, faut savoir que la guerre du Karabakh, pour moi, ça a été quelque chose de particulier. C'est-à-dire que, un peu comme un archéologue, j'ai déterré des pierres pour y trouver des vestiges pendant tout mon travail pendant 30 ans. Jusqu'à un moment où je me suis retrouvé, donc, dans le Karabakh, plongé dans mon cauchemar, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires résistants étaient des Arméniens, les agresseurs étaient des Turcs, les prêtres étaient obligés de protéger leurs églises, comme tous ces contes que j'ai entendus quand j'étais petit, armes à la main. Ils baptisaient les militaires, comme on me racontait quand j'étais tout petit. Et en fait, cette dame, son regard, pour moi, alors qu'il y avait énormément de photographes, de journalistes qui passaient là, hein, j'ai tout de suite compris qu'elle faisait écho à ma mémoire, en fait. Et elle réagissait en fonction de ça aussi, c'est-à-dire qu'elle me transmettait ce message de une forme de résilience, mais une forme de résignation aussi. Et c'est tout ça qu'il y a dans ce visage. En fait, il y a l'âme du peuple arménien. Et là, vous avez une image qui cristallise complètement ma démarche, en fait. Et cette image, on la voit pas si on n'est pas habité par quelque chose. On passe devant, on passe à côté. On fait des photos générales de réfugiés sur des lits, dans des lits, assis, ou en train de manger, ou en train de dormir. Mais moi qui suis pas du tout portraitiste, en fait, il y a des moments où une image cristallise la quintessence de mon introspection, en fait. Et en fait, c'est ça, cette image-là.
Alors, monsieur Agoudian, il y a une autre photo que vous nous avez sélectionnée. Elle est un peu plus festive. On est toujours au Karabakh, mais dans la ville de Stepanakert, hein, qui est restée sous contrôle arménien. C'est un bébé, l'une des premières naissances après la signature du cessez-le-feu. Racontez-nous un petit peu le contexte de cette photo et peut-être l'espoir qui s'en dégage.
Vous savez, pour un photographe ou une personne qui est sur des terrains comme ça, il est toujours difficile de répondre à certaines questions, notamment les gens ont besoin de savoir ce qu'on a vu. Et effectivement, sur un lieu de guerre, vous vous rendez compte que le tragique est très présent, la mort est très présente. Et en fait, pendant près de 3 mois, c'est ce que j'avais vu, parce qu'il y a eu... moi, je suis arrivé exactement le 1er octobre, je suis parti le 20 décembre. La capitulation, elle a été signée le 9 novembre. Et en fait, avant cette capitulation et après cette capitulation, après la capitulation, l'histoire a continué. Il y a eu l'exode, il y a eu les gens qui ont dû céder des régions, il y a eu les militaires, les corps des militaires qui ont été rapatriés des champs de guerre, des terrains de guerre, de la ligne de front, de la ligne de contact. Voilà, tout ça on le voit. Et en fait, moi, ce qui m'a permis d'affronter tout ça, c'est justement l'héritage que j'ai eu. C'est-à-dire que le bouclier était déjà bien cabossé depuis très longtemps, depuis cet héritage mémorial. Mais tous ces peuples qui ont subi un génocide et qui ont l'héritage d'un génocide sont des personnes qui sont singulières. Ils ont, moi, tout petit, j'ai entendu les décapitations, les gens les découvrent avec l'État islamique, ne serait-ce qu'en France. Moi, tout petit, j'ai entendu parler de ces histoires de décapitation, de jours où, avec les têtes des prêtres, d'exode, de déportation, de mort, de famine. Ça, tout petit, je l'ai entendu. Et donc, pendant cette guerre et après cette guerre, j'ai vu une certaine quantité de choses qui sont des choses traumatisantes quand même. Et quand j'ai assisté à cette naissance en décembre, j'ai mon corps qui était dans un état, je sais pas comment vous expliquer l'état, mais d'un coup, je me rendais compte que voilà, la renaissance, la résilience, elle est dans ça, en fait, le fait de faire des enfants, parce que le problème des Arméniens, c'est aussi un problème démographique. Ils occupent un espace géographique sur lequel ils existent depuis l'Antiquité, mais en fait, il faut qu'ils l'occupent, cet espace, et de voir cette naissance, cet enfant, cette femme, qui a après des douleurs à accoucher, parce que pendant la guerre, elle était fermée, cette maternité. Et les médecins qui ont accepté, à qui j'ai pu convaincre, c'est qu'on est dans des pays où ce genre de propos sont très, très compliqués à faire, en fait. On est dans le Caucase, il y a toute une problématique par rapport à l'acceptation de faire des images pendant un accouchement. Et donc, le service médical, me connaissant, a accepté, a réussi à convaincre la mère que je puisse faire cette photo, et je lui ai expliqué pourquoi je voulais la faire. Et d'assister à cette naissance, pour moi, ça a été quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, j'ai des frissons rien qu'en en parlant, quoi.
Mais c'est vrai que c'est une photo magnifique. Alors la suivante nous replonge dans la guerre. On est dans la région de Latchin. On voit la résistance arménienne, hein, illustrée par cette photo extrêmement belle, mais extrêmement tragique. Hein. On voit les feux. On voit les soldats arméniens qui tirent avec un soldat en premier plan qui a l'air un petit peu résigné. Là aussi, vous nous le direz. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre totalement asymétrique avec d'un côté les forces arméniennes et puis de l'autre les forces azerbaïdjanaises aidées de la puissance de la Turquie?
Ben oui, parce que les Arméniens étaient en guerre de 14, équipés de façon guerre de 14, et les Azerbaïdjanais, c'était Star Wars, quoi. Ils avaient des drones. Le dernier cri, ça a été un laboratoire pour le monde entier, cette guerre, y compris pour des grandes puissances, parce que d'un coup, tous les paradigmes militaires changeaient. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à des drones? On pouvait avoir des centaines de milliers de chars, vous faites rien avec. Donc là, il y avait des militaires qui étaient partis dans l'idée de la résistance des années 90. Et en fait, vous aviez non seulement une coalition faite d'une armée de près de 150 000 hommes face à une armée de 20 ou 30 000 hommes, conjuguée à une des armées, la neuvième, une des armées, la deuxième, je crois, la plus puissante de l'OTAN. La Turquie participe à l'OTAN et elle était là pour épauler militairement, stratégiquement et hiérarchiquement l'armée azerbaïdjanaise. Et vous aviez aussi importé par Erdogan d'Idlib en Syrie des mercenaires djihadistes. Je ne sais pas si vous imaginez le rapport de force, comment il a été complètement tronqué. Et moi, ce qui me révolte dans cette histoire-là, c'est que de la part des journalistes, c'est que comment ne pas inféoder cette guerre au parachèvement du processus génocidaire? Quand vous avez la Turquie qui, aux côtés de l'Azerbaïdjan, affronte les Arméniens, c'est comme si l'Allemagne attaquait Israël. C'est un scandale humanitaire, humain et éthique qui s'est produit. Personne n'a réagi. La Russie a profité de cette situation. S'il n'est pas l'initiateur de cette guerre, parce que je ne veux pas faire de procès d'intention pour pouvoir reprendre ses pieds sur place, parce que le gagnant de tout ça, c'est quand même la Russie. L'Europe, qui reconnaît le génocide des Arméniens, qui soutient les Arméniens de plus en plus après la guerre, n'a rien fait. Alors, je dirais pas que c'est facile, hein. Mais on envoie des armées au Mali, on envoie des armées en Libye, mais on n'envoie personne là-bas. Vous avez un ministre des Affaires de la Défense, Le Drian, ou des Affaires étrangères, pardon, qui compte les coups de chaque côté, qui parle de neutralité face à un peuple qui s'était exterminé il y a 100 ans, et on est dans la phase terminale de ce processus. Et qui parle de neutralité, c'est une honte qui s'est produite là-bas. Là, dans la région de la Chine, les Arméniens résistaient avec des canons, face à une armée de 10 fois supérieure numériquement et équipée. Et ils ont résisté quand même 44 jours. Moi, je trouve que c'est héroïque.
Alors, monsieur Agoudian, il y a une autre photo particulièrement émouvante aussi. On y voit deux femmes hein, qui se recueillent dans l'église d'Adivan, qui est une église extrêmement belle, qui date du 9e siècle. C'était dans les derniers jours avant que cette région, ce monastère, soit cédé à l'Azerbaïdjan. J'imagine des scènes extrêmement, extrêmement poignantes là aussi pour vous.
Hein. Bah oui, c'est très dur parce que le gouvernement de Pachinian a rétrocédé une région. Façon arbitraire suite à la capitulation. Et donc là, on est, je crois, même le dernier jour de la présence arménienne avant la rétrocession de cette région à l'Azerbaïdjan. Rétrocession arbitraire, en fait. Donc voilà, les gens se recueillent sur un lieu qui a plusieurs siècles, qui a toujours fait partie du terroir arménien. Et arbitrairement, ils doivent céder un lieu dans lequel, de génération en génération, ils se recueillent. Qui est un lieu magnifique et que faut savoir quand même que les Azerbaïdjanais s'intéressent à cette région et s'intéressent même à Chouchi uniquement parce que c'est cher aux Arméniens. C'est des régions qui les intéressaient pas avant. Tout ce qui intéresse les Arméniens, ben les Azerbaïdjanais essaient de s'en approprier. Et tout ce qui témoigne de la présence arménienne plurimillénaire sur ce lieu les détruisent, comme le cimetière de Djoukha au Nakhitchevan, qui est l'autre région que le dictateur Staline a cédé arbitrairement à l'Azerbaïdjan en 21, où ils ont détruit un cimetière médiéval arménien où il y avait plus de 10 khachkas, ce sont des stèles en pierre arménienne gravées, qui est typique de l'art religieux arménien. Et donc voilà à quoi on assiste, à ce qu'on doit accepter en fait.
Et monsieur Agoudian, une dernière photo que vous nous avez sélectionnée pour évoquer encore cette guerre du Karabakh. On y voit une très belle photo là aussi, on est dans la boue, on est dans le brouillard, et c'est le repli de soldats arméniens, un repli progressif des positions qu'ils tenaient suite à la capitulation qui va précéder l'arrivée des troupes russes. C'est quoi le sentiment que vous constaté chez les militaires que vous photographiez à ce moment-là, de la résignation, une sorte de soulagement, une colère
Une sidération, en fait. Ils ne comprennent pas. Vous savez, dans les militaires, il y avait des avis divergents. Il y en a qui disaient « c'est une honte qu'on nous enlève de la ligne de front, on mettra à battre ». D'autres étaient évidemment contents d'entrer chez eux. Quoi qu'il en soit, ils ont quitté la ligne de front et petit à petit, ils se replient. Ils ont 5 ans... pour solutionner le problème, en 5 années, je pense qu'il n'y aura plus de militaires arméniens dans cette région-là, dans cette province-là. Il restera peut-être une police locale. Alors, il peut y avoir des coups de théâtre, ils sont déjà arrivés, mais disons que le pire pour moi est devant nous, quoi. S'il n'y a pas une prise de conscience et réellement un positionnement ferme face à l'Azerbaïdjan, qui est 168e sur les pays dénoncés par Amnesty International, et la Turquie 158e. Je ne sais pas si vous imaginez que ce sont deux dictatures féroces, toxiques, pour leur peuple même, on le voit bien quotidiennement. Et donc l'Europe négocie, parle avec ces gens-là en les mettant en pied d'égalité avec un petit pays plurimillénaire. Voilà, je ne sais pas quoi dire.
Bon, en tout cas, on vous a entendu, monsieur Agoudian. Merci d'avoir nous avoir éclairé un petit peu et nous avoir livré votre témoignage hein, de première main sur cette couverture que vous avez pu faire de la guerre au Karabakh, on l'a vu et j'invite les auditeurs à regarder les photos, bien sûr, qu'on mettra que vous avez bien voulu nous commenter et qu'on mettra sur le site internet de l'émission Regard sur Euradio, euradio.fr ou euradio.be. Pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin, je recommande également de consulter votre site internet agoudian.com. Merci encore, hein, monsieur Agoudian, d'avoir bien voulu intervenir sur nos ondes. Et bonne continuation et à très bientôt, j'espère.
Merci, bonne journée.
C'était Regard, présenté par Ulrich Hugveld. Cette émission est à retrouver sur toutes nos plateformes ou directement sur Euradio.